Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchière.
19h19 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Bonsoir Anne Rosenchère.
Bonsoir.
Avec le conseiller du visuel Xavier Couture. Bonsoir.
Bonsoir Marco, bonsoir à tous.
Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Fréhère, nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir Marco, bonsoir à tous.
Et Alain Duhamel, à nouveau avec nous. Rebonsoir Alain.
Rebonsoir.
Les Gilets jaunes vont discuter avec Édouard Philippe, mais lesquels d'ailleurs. Une délégation officielle de manifestants doit être reçue demain à 14h à Matignon, à la veille du troisième samedi de mobilisation. Mais même à Matignon, ça reste confus. Pour le moment, seulement 4 porte-parole ont accepté. Ce matin, les élus locaux reçus, eux aussi, par le Premier ministre, ont réclamé un geste du gouvernement. Environ 3500 Gilets jaunes étaient toujours mobilisés à la mi-journée. Alors, bras de fer ou main tendue, il faut savoir finir un mouvement. Comment en sortir sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret ?
C'est toujours aussi flou, hein. Les Gilets jaunes eux-mêmes remettent en cause leur délégation. Mais quelle représentation pour ces représentants ? S'énerve Pécheux, qui me conseille même de ne pas y aller. Pourquoi faire ? Pourquoi vouloir dialoguer tout d'un coup alors qu'ils n'ont rien de concret à proposer ? Ça suffit, les verbiages soporifiques. Sylvie trouve même honteux d'aller chez Édouard Philippe pour cette opération de com' indigne. Florian lui veut bien y aller, à une condition. Si le gouvernement veut calmer les esprits, il faut diffuser la rencontre en direct, car l'ensemble des Gilets veulent entendre les mots qui vont sortir de leur bouche. Mais ils n'ont rien à dire, assure Denis. Le mouvement est si répandu dans le peuple de France qu'ils sont paumés, le logiciel bug. Pas de parti, pas de syndicat, pas de slogan. Qu'est-ce qu'on répond à un ras-le-bol général, demande-t-il. Pour sortir de la crise, beaucoup pensent que c'est au gouvernement de plier. Bernard Pivot en tête qui tweet « Les Français sont de plus en plus nombreux à soutenir les Gilets jaunes parce qu'ils voient bien que sous le tissu, il y a des cœurs qui souffrent, sous les rides, des vies désenchantées, sous les cris, les silences des pauvres. » Gérard Miller rend même hommage à Macron et à En Marche. Grâce à eux, l'Union nationale est presque réalisée. Plus que 16% de nos concitoyens à convaincre, dit-il. Et pour les people, en tout cas, c'est pas fini. Hein. Brigitte Bardot met un gilet jaune à son chien, poste la photo en ligne. Paul Naref exprime depuis Las Vegas son soutien aux gilets jaunes. Paye déjà tes impôts, lui conseille Host. Gérald Dahan appelle Cyril Hanouna à protéger avec lui les gilets jaunes des CRS samedi. Sergio Coronado veut les voir en gilet vert. Christine Boutin appelle les opposants à la PMA à se joindre aux gilets jaunes. Bref, conclut Renaud Pila de LCI, le scénariste de cette crise politique a vraiment du talent.
Christine Boutin voulait parler de l'ex-ministre. Hein.
C'est bien.
Anne Rosenchère, J-2 avant l'acte 3, J-1 avant Matignon, and so what ce soir?
So what, on voit bien dans ce qu'a dit Benoît, c'est un bon résumé en fait, ça vaut quelques thèses d'éditorialiste en effet, que c'est insaisissable. C'est un moment, je crois que Benoît a cité quelqu'un qui disait le mouvement est si répandu que le logiciel bug. C'est vrai, il n'y a pas de représentant, ce n'est pas un parti politique, les gens n'ont pas à être solidaires des éventuelles choses qui se font ici ou là. C'est quelque chose qui dépasse complètement une revendication corporatiste ou que sais-je. Tout d'un coup, ce qui se passe, c'est que cristallise 20-30 ans de quelque chose qui se tramait.
On le dit beaucoup, Anne, et on a bien compris depuis quelques jours. Mais comment on en sort ?
Alors, on n'en sort pas du jour au lendemain, Marco. Hein. Ça, c'est sûr que même quand bien même, on pourrait éventuellement imaginer quelque chose qui apaise les colères immédiates, un geste sur la taxe sur le fioul ou que sais-je. De toute façon, ce qui est en train de se passer là n'est pas quelque chose qu'on résout d'un mois sur l'autre, c'est quelque chose qu'on résout, que sais-je, en redéveloppant une industrie qui pourra irriguer...
Regardez la tête d'Alain Duhamel sur
RTL.fr.
Les gilets jaunes ne sont pas les plus imaginatifs. Alors.
Les gilets jaunes, c'est quand même cette France périphérique qui depuis 30 ans, n'a plus d'irrigation.
Il faut aller discuter avec les gilets jaunes en question, que j'ai un petit peu fait, et ce qui est tout à fait étonnant, moi je vois pas comment...
Pardon Yves, mais allez discuter avec les gilets jaunes en question, lesquels encore aussi non, parce que vous avez la chance d'avoir discuté avec les gilets jaunes, mais en question, c'est lesquels?
Non, mais là où je suis, c'est-à-dire journaliste, je suis pas... j'ai aucune responsabilité politique.
Non, c'est pas ça que je dis, c'est qu'aller discuter avec les gilets jaunes, c'est tellement épars comme revendication, à part le fait qu'on peut pas boucler ses fins de mois, c'est compliqué.
Je suis allé discuter avec plusieurs fois, et ce qui ressort de là, je vois pas comment, d'abord, pour répondre directement avec question, je vois pas comment le gouvernement peut se sortir de ce bourbier sans suspendre cette augmentation de la taxe carbone.
D'accord.
C'est une chose. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je pense pas qu'il puisse s'en sortir. Mais ce qui est terrible au-delà de là, c'est qu'ils vous disent on ne veut plus, on n'a plus confiance en vous. Ils n'ont plus aucun respect pour leur classe politique. Ils ont viré la classe politique ancienne en 2017, mais celle qui est venue, qui arrive là, ils disent avec vous, on n'a pas de meilleurs résultats, on n'a pas une meilleure politique, et on continue à payer, on est des vaches à lait. dégagés. Il faut voir le manque de respect qu'ils ont vis-à-vis d'eux. Est-ce que vous auriez imaginé, il y a quelques années, un gilet jaune dans le bureau, en l'occurrence de M. de Rugy, et qui dit, bah, attendez, comme je ne suis pas sûr tout à fait de ce que vous me racontez, je vais vous filmer, et puis en sortant, je vais diffuser le film. Vous auriez imaginé ça il y a quelques temps. Il y a une coupure, une rupture de cette France-là. Mm-hmm. Je ne dis pas que c'est tous les Français, mm-hmm. et je ne dis pas que c'est tous les gilets jaunes, mais beaucoup chez eux ont un rejet de ceux qu'ils ont en face d'eux. Mais et pourtant, ceux qui sont en face d'eux, ce sont des nouveaux.
C'est des nouveaux, mais peut-être parce qu'ils ne sont pas trop nouveaux, Alain Duhamel, et peut-être que ce qui a été un atout pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire sa jeunesse, aujourd'hui n'est pas un handicap, parce qu'il n'est pas respecté comme, finalement, un Jacques Chirac pouvait l'être, même un François Hollande et un Nicolas Sarkozy, avec il y avait une forme d'autorité naturelle liée même au parcours. Est-ce qu'il ne manque pas ça,
alors,
peut-être
D'abord, cette autorité qui a existé au début de la Ve République, elle n'a cessé de diminuer.
Oui, c'est vrai. Mais
elle a cessé. Oui, non, mais c'est un mouvement qui s'accélère. Oui. Ce n'est pas un mouvement qui naît.
Non, mais de ce point de vue-là, entre François Hollande et Emmanuel
Attendez,
Macron, il y a quand même
comme dirait quelqu'un, laissez-moi vous répondre, puisque vous me posez la question. Bon, que le fait que, aussi bien dans ce gouvernement, ce soit pour l'essentiel des débutants en politique, qu'au Parlement, dans le groupe La République En Marche, ce soit des débutants en politique pour la plupart, et que Emmanuel Macron lui-même a des grandes qualités intellectuelles, mais est un débutant en politique. Donc, ils accumulent des erreurs pratiques. Ça ne m'étonne pas du tout.
Mais au-delà de l'erreur, la crédibilité, juste liée un truc un peu bête, mais à l'âge, quoi.
Bah écoutez, je pense que ça peut jouer. Je ne suis pas sûr que ce soit central.
D'accord.
Parce qu'il me semble que ce qui est le plus important, c'est non seulement le rejet de la classe politique dans son ensemble, encore que dans son ensemble, je ne suis pas sûr qu'il faille y intégrer le Rassemblement National, parce que je ne suis pas sûr qu'il sorte rejeté de ce conflit-là. Je pense même plutôt le contraire. Mmh. Bon, mais ce qui est frappant, c'est que ça n'est pas simplement, c'est d'abord Macron et les Français, mais ça n'est pas simplement la majorité et les Français, et même la classe politique et les Français, c'est tout ce qui est considéré comme classe dirigeante, mais
élite
aussi
même.
Bien... Oui, c'est
y
ça.
Les journalistes.
Les journalistes ne sont élite. Pas tous d'élite, mais certains y sont.
Non, mais vous, en tous les cas.
Je ne sais pas. En tout cas, ça, compte tenu de ceux qui sont autour de moi, peut-être...
Ah, si vous ne l'êtes pas, personne ne l'est.
Bon, mais je termine quand même, je termine. Ce qui est frappant, c'est que ce rejet-là... en fait, et puis qu'on peut élargir au thème qu'on connaît bien, mais qui correspond à une réalité, qui est les deux France, qui ne sont pas d'ailleurs, les deux France, ce n'est pas 2% et 98%. Mmh. Hein, c'est deux France, en gros, de taille à peu près équivalente. Mmh. Bon, si on tient compte de tout ça, on se rend compte qu'on arrive, je termine, on se rend compte qu'on arrive à une situation politique extrêmement dangereuse,
explosive.
Parce que complètement bloquée. Il n'y a pas de sortie évidente.
Mais d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est de quoi les gilets jaunes sont-ils réellement le nom? Ça, c'est une question qu'on peut poser.
De la rogne.
Et d'ailleurs, si on peut regarder ce qu'est le sondage du Parisien ce matin, on s'aperçoit que, ou l'enquête qui a été faite par le Parisien, on s'aperçoit que les porte-paroles sont plutôt classées à droite ou à l'extrême droite. En même temps, ça ne veut pas dire que l'ensemble des gilets jaunes soit issu de l'extrême droite, je partage le point de vue d'Alain sur le fait que le Rassemblement National ne va pas sortir affaibli de cette histoire.
En tout cas, moins que les
autres. Mais enfin, honnêtement, et peut-être que c'est une théorie que vous allez trouver un peu osée, mais je pense que d'une certaine façon, les gilets jaunes sont les enfants de Macron. Pourquoi ? Parce que, à force de vouloir mettre à bas les systèmes, on était très content de se dire « Ah, il y a un renouveau, il y a une forme de start-up politique avec ce parti, la République En Marche, qui vient de nulle part, qui sort des réseaux sociaux, qui est une espèce d'élan spontanéiste, magnifique, duquel va sortir le miracle du redressement national. » On s'aperçoit de quoi, comme le disait Alain, que c'est de braves gens, des députés, inconnus, quelques hommes politiques un tout petit peu solides, mais enfin un grand vide.
Très peu.
Au bout du compte, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une sorte de vide issu de ce monde numérique, de ce monde des réseaux sociaux. Mmh. On a mis à bas l'ensemble de la classe politique et au passage, effectivement, la représentation que peut représenter aujourd'hui le monde syndical ou le monde journalistique ou le monde des élites. Et on s'aperçoit que dans une espèce de spontanéisme, d'unicité parfaite, le peuple se réunit autour d'un truc qui ne veut rien dire. Un gilet jaune. C'est quel est le sens du gilet jaune?
Tout le monde en a un. On y revient dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir. Avec Marc-Olivier Fauchon.
19h32, on refait le monde ce soir avec Anne Rosenchère, Yves Tréhard, Xavier Couture, Alain Duhamel. 13e jour donc de mobilisation pour les gilets jaunes. 14e demain, 15e samedi. Et ça va durer jusqu'à quand?
Un dernier mot pour dire, moi, que je crois que pour répondre à la question comment sortons, je crois qu'on ne fait qu'y entrer. Et voilà, c'est tout. C'est, ça s'arrête là. Je pense que malheureusement, on n'en sortira pas de sitôt.
Moi, je crois qu'on entre dans une phase de métamorphose, donc d'illisibilité au départ. Je crois qu'il ne faut pas confondre la phase avec le mouvement. Ce qui est très compliqué en ce moment, c'est qu'il y a les électeurs, il y a le peuple, il y a l'opinion. Je dis les électeurs et le peuple parce que parmi ceux qui sont des gilets jaunes, il y en a beaucoup qui sont des abstentionnistes.
Bien sûr.
Et qui, là, se mobilisent. Donc, les électeurs, le peuple, les militants. Et ce qui est extraordinairement frappant, c'est qu'en ce moment, il y a très peu de gilets jaunes sur le terrain. 8000 aujourd'hui, c'est très peu. Et que, par ailleurs, ils n'ont jamais eu une adhésion aussi large de l'opinion exceptionnelle.
Oui, je voudrais juste peut-être être un tout petit peu optimiste, si on peut l'être. C'est qu'il se passe quand même aussi quelque chose. Il y a une espèce, pour reprendre les termes de Christophe Guilluy, de soft power des classes populaires. Ce qui se passe là, c'est que les Gilets jaunes ont imposé leur diagnostic, c'est-à-dire la France populaire est en train d'imposer ses thèmes. On parle depuis 15 jours de ces thèmes-là, de pouvoir d'achat, de travail. Alain Duhamel a fait un saut quand j'ai parlé d'industrie, mais oui, de savoir comment...
Si on attend de réindustrialiser des...
Il va falloir s'y coller.
On en a pour trois générations.
Non, peut-être pas.
Regardez, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas, l'industrialisation.
Peut-être le protectionnisme, par exemple, un tout petit peu. C'est pas un mot si tabou que cela, mais bon, enfin bref.
Le protectionnisme, c'est beaucoup,
en tout cas,
pas du tout.
Ce que je voudrais dire, c'est que ce soft power-là, on n'a qu'à voir déjà la popularité de ce mouvement. C'est énorme, ça veut dire que ça n'est pas que les gilets jaunes, ça veut dire que des gens qui font partie de l'élite disent on comprend les gilets jaunes, c'était pas forcément acquis.
Il y a encore François-Henri Pinault l'autre jour sur RTL. Hein.
Exactement, et ça veut dire aussi que vous avez vu dans les médias, ça n'est pas tout à fait la même ritournelle qu'avant. Les people dont a parlé Benoît, moi je suis contre rigoler parce que moi je trouve ça intéressant que désormais des gens comme Franck Dubosc, Paul Naref, oui mais c'est toujours ça, vous savez,
on va pas débattre.
Moi,
je suis persuadé, je l'ai écrit dans le Figaro lundi dernier, qu'il y a quand même, comme en 95, on parlait d'une grève par procuration, il y a une colère par procuration.
C'est
une chose évidente. La deuxième chose, c'est que nous tous, et tout le monde a raison de faire des analyses, des prospectives pour savoir comment on sort. Mais ce qui est urgent là, c'est de savoir comment on en sort maintenant.
Bah, c'est ça un peu ma question. Mais bon, j'ai bien compris qu'on peut décrypter le mouvement, mais on avait du mal à dire comment sortir, à part annuler la taxe.
Et ben voilà. Mais parce que là, on dit.
Il y a Noël
et les fêtes de fin d'année qui vont évidemment peut-être ralentir le mouvement, je ne sais pas. Mais il aura un prolongement, ce mouvement, si on ne lui trouve pas une solution.
Allez, on va terminer avec Alain.
Il y a une grande différence. Je pense que la métamorphose qui existe va se poursuivre, parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Le mouvement lui-même, ce n'est pas forcément la même chose. On peut tout à fait imaginer que le mouvement s'épuise en une semaine, deux semaines, trois semaines, mais que la question, que le problème, que la métamorphose, elle, dure des années.
Et surtout qu'il y a la réforme des retraites qui arrive au début de l'année prochaine, et là vous allez voir, c'est une autre paire de manches dans ce contexte-là.
Et ce qui arrive après la pub, c'est la fessée, à tout de suite.
Ah, d'accord.
On refait le monde dans RTL Soir, Marc-Olivier Fauchier.
Avec Alain Duhamel, Xavier Couture, Yves Tréhard et Anne Rosenchère. Avant notre deuxième sujet, juste cette petite info, puisqu'on parlait des gilets jaunes, plus d'un million de signataires pour la pétition contre la hausse du prix du carburant. Ça rejoint un peu ce que dit Yves Tréhard, il y aura au moins, si la hausse finalement est annulée, un million de personnes qui auront l'impression d'avoir été entendu. Dernière baffe pour la fessée. L'Assemblée nationale se penche ce soir sur l'interdiction des fessées, tapes ou gifles données aux enfants. Ce sont les députés MoDem soutenus par le gouvernement et La République En Marche qui veulent donc en finir avec ces pratiques pour lesquelles la France a été condamnée à nombreuses reprises. Mais le texte ne prévoit pas de nouvelles sanctions. Selon la Fondation pour l'Enfance, 85% des parents français ont recours à des violences dites éducatives. Pour, contre, la fessée sur les réseaux sociaux.
Ben ah ben il y a deux camps, hein, ceux qui tendent l'autre joue et ceux qui la claquent. Nicolas Bay du Rassemblement National dit la fessée, je crois que ça a une valeur éducative, dès lors que
on
c'est fait
pu le parier.
Avec l'affection et l'amour que les parents portent à leurs enfants. Oui, je te tape avec amour et puis quoi, je te viole avec tendresse, je te tue avec respect, tout va bien, grince Sylvie. Il y en a quand même beaucoup, comme Christine qui parle de laxisme. Hein, quand on voit certains jeunes, on se dit quand même qu'il y a des claques qui se perdent, dit Fred et Laurent de soupirer, on en a tous pris une fois, ça nous a pas tués, peut-être même que ça nous a rendu service. Tu as totalement le droit d'être sadomasochiste, mais pas de l'imposer à tes enfants. On parle d'une pratique entre adultes consentants, rétorque Benny. Mettre une claque, même petite, c'est la plus mauvaise image, la plus mauvaise éducation que tu puisses donner à un enfant, assure Pablo. Totalement d'accord, un adulte doit réfléchir et se contrôler. C'est un acte de faiblesse, accuse Noémie. Et puis, à ceux qui se disent quand même que c'est dangereux de se faire punir par la loi pour soi, Laurine répond pour finir que le but est juste d'instaurer un principe, pas de nouvelles sanctions, et que ce principe est, on est éduque pas avec la violence.
J'ai envie de commencer par Alain Duhamel.
Bah, j'ai reçu assez peu de fessées.
Mais en avez-vous donné ?
Non.
Ah bon.
Non, mais d'ailleurs, je suis contre le principe. Cela dit, je ne suis pas sûr que ce soit forcément une législation qui doive organiser tout ça. Sur le principe, je trouve que c'est... Enfin, ça me paraît même presque évident. Je pense que c'est certainement pas comme ça qu'on obtient des résultats, d'aucune façon. Et puis, il faut reconnaître que ce sont des pratiques qui descendent de périodes barbares. Bon, bah c'est comme ça. L'idée de dire chaque comportement individuel au sein de chaque famille doit faire l'objet d'une réglementation nationale. Bon, on nous expliquera que si c'est obligatoire à partir de la semaine prochaine de se moucher avec des mouchoirs en papier et pas en tissu.
Oui. Bah, attention, parce que c'est pour l'écologie.
C'est bien ce que je dis. Bien et sûr. Puis la semaine suivante, on sait ce que ça sera.
Ah bah. Non, ça sera quoi ?
La semaine suivante, ça sera interdiction de mettre des chaussures avec des lacets.
Oui.
Cette année, c'est des chaussures sans lacets.
Voilà. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est déjà le symbole de ces lois un petit peu proclamatoires, incantatoires, parce que ça ne coûte rien. Et on sait déjà que ce ne sera pas mis en place, puisque, comme l'a dit Benoît et l'a rappelé Alain, il n'y aura pas de sanctions prévues. Donc, décider d'un crime qui n'est pas puni, c'est quand même quelque chose, à mon avis, de manière générale, dont on pourrait se priver. Et deuxième chose, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Alain. Bien sûr que des énormes claques, tout ça, jamais, et puis même
et
la fessée. Non, mais même pas. Mais pour moi, en revanche, il y a quand même, il faut pas faire de confusion entre les mauvais traitements qu'il faut vraiment traquer,
oui,
vraiment traquer, parce que il y en a encore et il y en a encore beaucoup trop,
et
parfois même dans certains endroits en augmentation, donc vraiment faut les traquer. Et une petite fessée, voilà. Après, comment vous allez légiférer? On sait tous qu'il peut en plus y avoir des différences.
Je me demande si vous n'avez pas trop lu la comtesse de Ségur
et
la délectation avec laquelle elle parlait des fessées.
Alors non, je ne parle des fessées avec aucune délectation. J'ai lu la comtesse de Ségur néanmoins.
Oui,
et
ça
je
sent,
pense,
d'ailleurs.
Non, mais vraiment sur le fond, je pense qu'il ne faut pas de confusion entre les mauvais traitements et cela.
Moi, trois choses. Un, pas de législation, parce que ça, c'est vraiment des dispositions qui sont ridicules. Deux, je suis contre les fessées, les claques et toutes ces vices à caractère physique, évidemment. Trois, je dois à la vérité de dire que je me suis pris quand même quelques claques quand j'étais gamin et que ça m'a remis les idées en place, moi.
Ah.
Ouais.
Bah alors, c'est
je
ça,
crois
l'origine.
Que j'ai dit ça n'est pas évident
pour t'en dire.
Je crois que j'en ai eu. Je cherchais si mes deux parents m'en avaient mise.
Mais donc la cohérence de ce que vous dites, si vous en avez reçu, que ça
vous
a mis les idées en place.
Mort, effectivement, comme disait. Je suis pas mort. Deux, c'était sans doute à caractère affectif et puis donné avec amour. Sauf que je me souviens d'une qui m'avait fait grandement beaucoup de mal.
Une précision qu'on m'apporte un collègue, confrère d'une radio concurrente qui nous écoute. Sur les 10 dernières années, il y a eu 7000 enfants tués par leurs parents en France, seulement 4 en Suède, qui interdit la fessée il y a 40 ans.
Oui.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Mais c'est parce que la Suède est un pays protestant.
Donc, ça doit être ça.
Vertueux,
voilà,
bien sûr.
Voilà.
Alors, si je peux terminer ce que j'ai pas commencé, je voulais juste pointer
J'avais couture.
Ce que vous disiez à propos de la confusion entre ne pas, faut pas confondre une petite fessée éducative et puis la maltraitance. Mais justement, tout le problème, il est là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent et ça débouche sur le résultat qui vient d'être signalé par
non, Marc-Olivier. Sincèrement. Alors, Xavier, je suis pas d'accord avec ça.
Je voudrais juste terminer.
Je vous parle des générations anciennes.
Oui. Je dis simplement.
Vous mettez
que,
une claque ou une fessée.
Pardonnez-moi, je suis. Je suis persuadé que ça a une valeur. Certes, sur le plan législatif, on va voter une loi qui ne débouchera pas sur des sanctions, donc on peut dire qu'elle ne sert à rien. Elle ouvre le débat et elle permet de pointer le fait que toute maltraitance, même légère, infligée à un enfant, peut avoir des conséquences dramatiques. Alors évidemment que nous, qui avons été élevés dans des conditions tout à fait idéales, à part Yves qui a reçu des claques, le pauvre...
Non, j'ai dû recevoir deux.
Mais moi, j'en ai reçu.
Hein. Oui, mais moi aussi, j'ai reçu des fessées, évidemment.
Fessées jamais, moi.
Je me suis vengé à la télé après.
Cela dit, je pense le débat a valeur éducative pour ceux qui donnent des fessées un peu trop fortes. Et je terminerai juste en disant, c'est drôle... Parce que c'est le MoDem qui fait cette proposition, dont le président avait mis une claque publique.
Exactement. En plus,
c'est vrai. Il y avait piqué son
portefeuille. Jusque notre confrère qui nous envoie des textos nous dit si la corrélation scientifique est bien établie, parce que il y a beaucoup.
Là,
je n'ai
pas lui demander trop parce qu'il travaille à la même heure sur une autre radio. Donc, je ne peux pas.
Il y a d'autres paramètres. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il devrait travailler quand même.
Je ne sais pas. Il n'écoute pas son patron.
Allez, on parle. Dernier auditeur de sa radio. C'est embêtant.
Là, vous commencez à le cibler directement et vous avez peut-être pas tort. Allez, la France, championne d'Europe des impôts. On en parle dans un instant.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
19h48 sur RTL. On refait le monde ce soir avec Yves Tréhard, Xavier Couture, Alain Duhamel, Anne Rosenchère. Avant notre dernier sujet, une dernière information toujours concernant les Gilets jaunes. Vous savez qu'on se demandait s'ils pourraient ou pas manifester samedi sur les Champs-Élysées. Le ministre de l'Intérieur, à l'instant, informe que les Champs-Élysées seront ouverts aux piétons, puisqu'il était question d'un interdire, mais avec un contrôle d'identité systématique.
Même pour Jean-Luc Mélenchon. il va faire une histoire.
Ainsi que l'avaient demandé les commerçants, et je rappellerai ici que c'est pas tout à fait idiot et infaisable. Pourquoi ? Parce que le Parc des Princes, que je pratique de temps en temps, et bien tout le quartier est bouclé et selon les mêmes principes.
Oui, c'est vrai. En même temps, il y a beaucoup de rues adjacentes aux Champs-Élysées.
Et au Parc des Princes aussi, je peux vous dire.
Oui, c'est vrai. Bon. on va débattre plutôt de la France championne d'Europe des impôts taxés et autres cotisations, un titre décerné par Europe qui ne va pas faire plaisir aux Gilets jaunes. La fiscalité représente 48,4% de la richesse nationale et les prélèvements obligatoires ont augmenté de 0,7 points en 2017. La France est donc le cinquième pays où cette augmentation est la plus forte. Et dans l'Union européenne, beaucoup de chiffres ce soir, désolé, les recettes fiscales représentent en moyenne 40,2% du PIB. Alors, trop d'impôts tue l'impôt. Vous en pensez quoi, Alain ?
J'en pense que le problème, ce sont bien sûr les impôts, mais que le problème, ce sont d'abord les dépenses. Tant qu'on n'arrivera pas à diminuer les dépenses publiques, on n'arrivera pas à réduire les impôts. Ou alors, il faut m'expliquer comment arithmétiquement ça peut marcher. À ce moment-là, ça voudra dire des emprunts, donc de la dette. Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trop d'impôts. Même ici, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trop de taxes et d'impôts. Mais tout le monde est d'accord aussi sur le principe, si on diminue les dépenses, mais dès qu'il s'agit d'entrer dans le détail, on est très preneur sur chaque taxe, chaque type d'impôt.
Ça dépend à qui s'adressent les impôts. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord pour dire à qui il y a peut-être trop d'impôts dans l'absolu, mais peut-être qu'il faut les faire peser plus sur les riches.
Non, mais moi, c'est ça que je... Oui, c'est ce que vous vouliez dire. C'est pas du tout la même chose.
Oui, non, mais j'entends bien ce que vous dites.
Ce que je voulais dire, c'est que quand il s'agit de dire voilà tel impôt que je voudrais voir disparaître, chacun a son idée. Mais quand il s'agit de dire voilà telle dépense sociale que je voudrais...
J'ai bien compris ce que vous voulez dire, Alain, mais plutôt, on peut faire disparaître des impôts et en créer d'autres, et par exemple recréer l'ISF, par exemple.
Ce qui fait beaucoup...
Je vais peut-être vous étonner, mais je ne serais pas contre.
Ce qui grève beaucoup, quand même, en France, il faut le dire, il y a les impôts, il y a les contributions sociales. Ce sont d'abord les contributions sociales, il faut le dire. Par exemple, quand un patron donne 150 euros ou paye 100 euros à un salarié, ça lui coûte 150 euros, ouais. Et il reste au salarié 40 euros sur laquelle il va payer de la TVA s'il dépense. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans un système très chargé. C'est surtout les contributions sociales. Pourquoi ? Parce qu'on a un système social, un modèle social, comme on dit, qui nous coûte cher et qui est vertueux. Et on le voit quand on est dans une période de crise aiguë comme dans 2008, 2009, 2010, où quand même, on n'a pas vu les scènes qu'on a vues aux États-Unis, qu'on a vues en Angleterre, ou même des cadres supérieurs, tout de suite
on a vu en Angleterre, en Espagne, en Italie,
où tout le monde était foutu dehors de ses boîtes, sans chômage, illico, et ben nous, on a amorti, on a un amortisseur. Simplement, effectivement...
Il coûte cher, quoi.
Il coûte cher, il faut savoir ce qu'on veut. En gros, c'est ça.
Oui, mais alors il y a la question que vous évoquiez de la répartition de ce poids de la charge fiscale. Il y a la question des dépenses, comme dit Alain. Je pense qu'il y a notamment des dépenses de fonctionnement qui sont devenues insupportables à ce niveau-là de pression fiscale. Et ça, à chaque fois, en effet, qu'on essaye d'y toucher, vous avez du corporatisme ici ou là qui s'agite. Mais la dernière chose, c'est que en effet, c'est la redistribution qui pèse. Mais en même temps, c'est parce qu'elle tient la société aujourd'hui. La redistribution. C'est pour ça, quand vous dites ça ne va pas faire plaisir aux gilets jaunes, mais en vérité, il y a beaucoup de ces gilets jaunes qui, pour l'instant...
Qui en profitent. Hein.
Ils n'en tiennent que par ça. Ils en ont besoin. Et donc, Alain va hurler et faire des bons, mais
l'industrie.
Mais oui, mais donc, on ne donnera pas de l'emploi. Non,
vous avez trop aimé le ministre de l'Industrie, Jean-Pierre Chevènement.
J'ai pas mal aimé Jean-Pierre Chevènement.
Comme ministre de l'Industrie.
Et je pense que... Et d'ailleurs, c'était intéressant, j'en finirai là-dessus, que quand on avait demandé aux Français les moins diplômés ce qu'ils pensaient du revenu universel, ça c'est vraiment la redistribution, on est d'accord, c'est le revenu que vous avez tout au long de votre vie, que si vous ayez un emploi ou pas, c'était les Français les moins diplômés qui étaient contre.
Oui, oui.
Pourquoi? Parce qu'ils disaient, c'est la seule façon que vous avez trouvé de vous débarrasser de nous. Vous vivez dans vos métropoles où l'immobilier est trop cher pour nous,
et où
le tertiaire crée
des
emplois, exactement, et vous nous larguez, les rejetés des métropoles qui ne sommes pas les winners de la mondialisation, parce que nous n'avons plus d'industrie, je suis désolée, et vous nous donnez l'obol. Eh bien non, ça c'est un modèle qui ne fonctionnera pas, et pour faire en sorte que nous ayons besoin de moins de distribution, eh bien il faut revoir notre modèle un tout petit peu, l'amender à notre façon, et pas laisser les populistes le faire. Voilà.
Il est bien souvent, on entend sur ce sujet des positions qui sont tout ou rien, c'est-à-dire si on baisse l'impôt, alors il va falloir baisser les dépenses, mais les dépenses, personne ne veut les baisser, donc en fait on peut pas baisser l'impôt parce que sinon c'est vraiment insupportable. La réalité, je pense que elle devrait être analysée en fonction de ce qu'est l'État. L'État est l'entreprise française la moins bien gérée. Et donc, on le voit d'ailleurs, quand l'État est lui-même actionnaire dans une entreprise, ça se termine en général très mal. L'idée...
Anne va être désespérée.
Non, mais... je pense, oui, sans doute. Mais l'idée tout de même première serait d'essayer de faire un minimum d'audit de cette fameuse dépense publique qui porte la France à plus de 57%, qui, malgré les annonces qui avaient été faites par le président de la République, n'a pas reculé d'un iota en 2017 et n'a pas reculé d'un iota en 2018.
Le déficit budgétaire, si.
Oui, enfin, on est...
Le déficit budgétaire a baissé. Et le déficit de la sécurité sociale aussi.
Alors, en revanche, la sécurité sociale, sur un oukase qui a été relativement bien géré, a très légèrement baissé. Ce que je veux dire, Alain, c'est qu'au-delà des décisions politiques, et c'est d'ailleurs le problème, c'est qu'on vit dans un pays où le politique et l'administration ne font qu'un. Et la difficulté, c'est si on avait la possibilité de prendre des dispositifs qui fassent que ce pays soit géré, et qu'on essaye de s'abstraire de ce poids des corporatismes et de l'administration, non pas qu'elle fasse mal son boulot, mais on peut quand même essayer de la challenger en essayant de l'analyser plus précisément ce qu'elle fait.
C'était un des objectifs de Emmanuel Macron en disant
dans son programme.
On a une tubulure et l'argent qu'on injecte dedans ne ressort pas au bon endroit. Il faut remettre de l'ordre là-dedans. C'était tout à fait audible et vertueux d'ailleurs ce qu'il disait. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que les Français ne l'ont pas compris, qu'ils sont tellement impatients qu'il y ait des résultats.
C'est vrai.
Et bien qu'on arrive là où on en est aujourd'hui.
Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde ce soir sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h avec Quentin Vinet. Ensuite, ce sera Jacques Pradel pour l'heure du crime. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Marc-Olivier.
Au sommaire de votre émission ce soir.
Eh bien ce soir, on vous offre une galerie de portraits de femmes tueuses en série en France et dans le monde. Et vous allez constater qu'elles sont aussi dangereuses, mais moins nombreuses que les hommes.
D'accord.
Moins brutales, moins sadiques, quoique. Plus discrètes en tout cas, et surtout plus longue à se faire rattraper par la police. En moyenne, 8 ans contre 4 ans pour les hommes.
Très bien.
Suite, dans un instant.
Après le flash.